un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Pour ouvrir ce nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire, permettez-moi de vous livrer une très courte citation. Les petits plaisirs font aussi les grands massacres. Citation paradoxale, vous en conviendrez, d'autant plus si nous l'appliquons à l'Allemagne des années 30, qui nous apparaît davantage comme une période de notre histoire où le mot plaisir semble avoir été banni. Pourtant, nous avions tort. La vie mondaine sous le nazisme existe bel et bien et nous ferions une deuxième erreur en pensant que l'arrivée d'Hitler au pouvoir constitue une rupture majeure dans la haute société. La vie mondaine sous le nazisme, oui, a ses codes, ses langages, sa hiérarchie, ses rites propres au régime totalitaire, mais tout cela ne serait guère dérangeant si parallèlement, ou plutôt conséquemment, le vol, la destruction, l'expropriation et le massacre furent une partie intégrante de cette mondanité. Je vous invite aujourd'hui dans les salons des élites et du pouvoir de l'Allemagne des années 30. Vous y rencontrerez les stars de l'époque, acteurs, chanteurs, mais aussi l'aristocratie et les grands industriels et financiers qui se pressent aussi au congrès de Nuremberg. Comment peut-on se faire inviter dans les cérémonies, les bals et autres événements dans la haute société? Comment le corps diplomatique à Berlin participe à cette vie mondaine autour d'un des plus grands meurtriers de l'histoire de l'humanité, qui sont les courtisans du régime, mais aussi les victimes de cette mondanité? Fabrice d'Almeida, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Vous êtes agrégé d'histoire, docteur. Actuellement, vous dirigez l'Institut d'Histoire du Temps Présent et vous venez de publier aux éditions Perrin « La vie mondaine sous le nazisme », un livre, il faut le dire, qui obtient un franc succès. Alors le nazisme, la personnalité d'Hitler, intéresse beaucoup le public. N'importe quelle table de librairie foisonne d'ouvrages sur la question. Comment expliquer, Fabrice d'Almeida, un tel succès, ce succès que rencontrent ces livres sur le nazisme?
Bon, c'est des succès inégaux, hein. Il y a bien sûr des grands best-sellers, des grands démarrages. Il y a deux raisons si on veut réfléchir, disons, à la présence du nazisme dans notre société. Bon, il y a déjà le fait que ça a été un événement matriciel pour la deuxième moitié du XXe siècle. La Deuxième Guerre mondiale a fortement marqué les consciences, en particulier en Europe et en France. Et donc, c'est logique qu'il y ait encore un intérêt maintenu pour ça. Et puis, il y a une deuxième raison, peut-être aussi, plus conjoncturelle pour cette année, c'est que nous sommes encore dans le souffle de la commémoration de 1945, c'est-à-dire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de la libération des camps. Et si vous vous souvenez, l'an passé a été marqué par un débat tout à fait important au niveau international, hein, en Allemagne, aux États-Unis, en France même, autour d'un film qui a été un immense succès, qui s'appelait La Chute, et qui a aussi tout à fait retiré l'attention du public vers cette période, vers ces questions. Donc c'est tout à fait, à mon avis, deux raisons, une raison structurelle, une raison de vraie culture politique durable dans la France, et puis en même temps ces raisons conjoncturelles, c'est-à-dire qu'on est encore dans une phase de commémoration et une commémoration peut-être double et ambiguë à la fois, puisque d'un côté on a essayé de se souvenir d'Auschwitz, de se souvenir disons de ce qui a fondé une certaine forme d'humanisme d'après 1945, et puis de l'autre côté il y a le sentiment que le nazisme représente la barbarie absolue et il est souvent cité en comparaison avec d'autres personnalités au moment de guerre, dans les guerres récentes, en Extrême-Orient notamment, on a vu venir, enfin au Moyen-Orient, pardon, on a vu venir cette expression, on a vu venir ces comparaisons avec la Deuxième Guerre mondiale, avec Hitler et donc avec le génocide. Donc il me semble que toutes ces raisons cumulées font qu'il y a une certaine logique, ce n'est pas qu'un intérêt de curiosité. Je crois qu'il y a une vraie demande de culture.
Alors, disons-le d'emblée, on aurait tort de considérer la vie mondaine sous le nazisme comme un fait secondaire, c'est au contraire une enquête révélatrice. Comment avez-vous été amené à travailler sur un tel sujet, Fabrice d'Almeida ?
Alors ça, c'est un peu la chance de notre époque, c'est que on peut voyager et il se trouve que j'ai voyagé et que je suis allé en Italie. Et j'ai appris l'italien, j'ai commencé à travailler sur l'Italie et j'avais donc une espèce d'intérêt comme ça pour le cinéma italien aussi. Et il y avait un film que j'avais en tête qui était Les Damnés de Visconti, mais il se trouve que conjoncturellement, un soir, en 98, je regarde la télévision et je vois un film de Rossellini qui s'appelle Le Général de la Rovere. Et dans ce film, en fait, qui raconte la vie d'un escroc, d'un petit escroc, à la fin, il est pris pour jouer le rôle d'un général, essayer de tromper les résistants italiens, donc pris par les Allemands. Et il refusera de révéler son identité. Il meurt fusillé comme traître, mais comme traître général monarchiste. Et il meurt en criant « Vive le roi !» Moi, ce film, je le trouve sensationnel. J'en parle à un ami italien qui me dit « Mais écoute, Fabrice, l'acteur Vittorio De Sica, en fait, a commencé sa carrière sous le fascisme comme acteur mondain. » Je lui dis « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il me dit « Oui, il jouait dans des petites comédies légères et il jouait les hommes de salon, un peu séducteurs, comme ça, un peu playboy. » Et je commence à regarder quelques films comme ça et je me rends compte que ce sont des films dans lesquels il n'y a pas un uniforme fasciste. Et je me dis « Mais tiens, c'est extraordinaire. Il faut étudier la vie mondaine pour voir si vraiment elle était à ce point déconnectée du fascisme, comme le laisse à penser le cinéma léger de cette époque. » Et je me dis, l'étudier tout seul, ça ne me convient pas, j'aimerais bien le comparer avec autre chose. La France, le territoire me paraissait déjà pris, il y avait l'Allemagne, et donc je me dis, je vais aller en Allemagne, faire un court séjour, pour essayer de trouver les 10-15 livres. Vous savez, c'est comme ça qu'on procède. On essaie de trouver la littérature, puis ensuite on fait un résumé, et après on peut comparer avec les sources primaires qu'on a pour l'autre pays. Ça arrive souvent qu'on travaille de cette manière-là. Et j'arrive en Allemagne, et le sujet n'est pas écrit. Je commence à en parler avec des collègues qui me disent...
C'est très important ce que vous dites, le sujet n'est pas écrit alors qu'on a tellement écrit, il y a une historiographie extraordinaire sur le nazisme. Eh bien, vous le dites dans votre livre, la première étude sur la noblesse allemande, par exemple, sous le nazisme, date de 2003.
Voilà, première étude scientifique. C'est-à-dire qu'il y avait eu une étude dans les années 50, vous savez, d'un érudit qui avait essayé de ramener quelques noms de famille, quelques noms de personnalités, mais qui n'avait pas fait une histoire critique. Et là, en 2003, effectivement, c'est Stéphane Malinowski, un jeune chercheur allemand qui fait un livre mais monumental, qui peut-être un jour sera traduit en français, il ne l'est pas encore, donc avis aux éditeurs. Et donc, il fait cette étude qui montre... quelque chose qui va au-delà de ce qu'Arnaud Meyer avait pu sentir quand il avait réfléchi sur l'Allemagne nazie. Arnaud Meyer avait pensé à une idée réactionnaire, montrer les élites traditionnelles, mais il n'avait pas vraiment les moyens de rentrer dans les archives familiales. Et là, c'est ce qu'il fait avec les archives familiales. Il montre l'implication du régime. Alors, pourquoi il n'était pas écrit ce sujet? Peut-être aussi parce qu'il n'avait pas envie de montrer quelque chose qui pouvait paraître à certains favorable au nazisme. C'est-à-dire qu'au lendemain de la guerre, tout le monde a l'idée de la fréquentation des salons nazis, l'idée des relations entre les élites et le pouvoir, elle est évidente pour les Allemands. Donc, à la limite, ce qu'il faut montrer pour faire évoluer la société, c'est les crimes. Donc, on va mettre cette histoire-là au second plan, la considérer en plus comme de la petite histoire, vous savez, faite par des gens pas très sérieux qui essayent de montrer des petites anecdotes. Donc ça va rester à l'écart et c'est ce qui explique que les années passant, eh bien, ce sujet-là soit tombé presque dans l'oubli. Alors qu'en fait, il touche véritablement la question de la gestion du pouvoir. Y a-t-il au fond, la question c'est quoi ? Y a-t-il un rapport entre style de vie, manière d'être et gestion du pouvoir ? Et cette question-là, en fait, n'avait pas été posée.
Alors, votre ouvrage s'ouvre par une réflexion profonde sur l'historiographie et je dis que vous plongez le lecteur et je dirais même le chercheur dans cette réflexion. Je voudrais vous citer, vous écrivez « Victimes de leurs présupposés, nombre d'historiens ont oublié de regarder les véritables groupes constitués qui ont effectivement favorisé l'accès et le maintien au pouvoir de cet étrange régime ». On n'arrive pas à prendre le recul aujourd'hui quand on étudie le nazisme. Généralement, quand on lit les journaux, il n'y a pas ce recul. Vous avez réussi, vous, à prendre ce recul ?
On a la chance de venir après les générations qui ont écrit, donc on peut les critiquer plus facilement. Et c'est vrai que sur le nazisme, il y a eu un débat mené très fortement par les communistes et par les marxistes. Et donc, il y avait une lecture qui était une lecture... En termes de classe, il y avait l'idée, c'est les classes bourgeoises qui ont mis en place ce régime. Voilà. Ensuite, il y a eu une réponse des historiens libéraux qui consistait à dire non, non, c'est pas les classes bourgeoises, c'est pas la bourgeoisie, c'est caricatural, non, non, c'est un problème de classe moyenne. Alors, il y a eu tout un débat sur la définition des classes moyennes, etc. Bon, ce qui est important aujourd'hui, longtemps après, c'est d'essayer de voir comment ça agit. C'est-à-dire pas essayer de faire des modèles absolument théoriques, mais essayer de comprendre comment dans un métier, très concrètement, on peut être amené à se confronter à la question d'un pouvoir autoritaire, totalitaire, et à voir quelle position on adopte par rapport à cela. Donc, en un sens, j'ai été très marqué, moi, par l'écriture de Arendt, même si Hannah Arendt, était elle aussi encore marquée par une certaine écriture en termes de classe. Mais il me semblait qu'il y avait dans la possibilité que n'importe quel individu se mette à son niveau, à son poste, dans la situation de participer au pouvoir, il y avait quelque chose de plus intéressant plutôt que d'essayer de le fondre dans une catégorie comme ça un peu abstraite. Et donc, c'est ce qui m'a amené à réfléchir, le sociologue que je cite dans l'introduction et qui m'a servi un petit peu d'outil, mais qui est un outil à critiquer lui-même, c'est Vilfredo Pareto. Pareto, vous savez, qui était sociologue suisse d'origine italienne et qui a soutenu le régime de Mussolini à la fin de sa vie en considérant que, en fait, il accomplissait la rénovation sociale qu'il appelait de ses voeux. Et il avait un concept, Pareto, c'était le concept de circulation des élites. Pour lui, une élite, c'était forcément positif. Pour moi, ça ne l'est pas. Une élite, c'est un terme technique, hein. C'est pour définir une relation avec le pouvoir. Mais donc, pour moi, il peut y avoir une élite mafieuse. Il peut y avoir une élite des valets de chambre. Et je le montre dans le livre. C'est-à-dire les gens qui sont proches d'Hitler, qui sont à des métiers qui peuvent nous paraître subalternes, étant donné qu'ils ont l'oreille du maître, ils peuvent être très importants, ils peuvent avoir une action réelle. Mmh. Bon, donc, quelle est l'élite des valets de chambre? Voilà, par exemple. Quelle va être l'élite des secrétaires? Est-ce qu'une secrétaire de Hitler, de Göring, de Goebbels, de Himmler, est-ce qu'elle joue un rôle particulier? Est-ce qu'elle a un rapport au pouvoir? Est-ce qu'elle se sert de ce pouvoir-là pour établir et permettre la reconduction d'une domination? Donc voilà, partir des métiers, regarder les gens qui sont performants, faire l'histoire au fond des premiers de la classe, de ceux qui réussissent sous le nazisme.
Alors c'est ce qu'il y a d'intéressant dans votre réflexion parce que vous affirmez qu'il ne faut pas considérer le nazisme uniquement par sa violence, mais aussi par son pouvoir de séduction.
Ben, il me semble, bon, c'est un des points du débat qu'il fallait lancer, on s'est beaucoup centré sur la violence du régime. Et c'est vrai que les plus belles études de ces dernières années sont des études qui ont choisi ce terrain. Je pense à Christopher Browning, je pense plus près de nous à Christian Ingrao en France, je pense à Florent Braillard. Il y a un certain nombre d'auteurs comme ça qui ont travaillé sur la violence et qui ont réussi à apporter vraiment des grandes réflexions sur la psychologie et notamment sur le passage à l'acte. C'était un sujet tout à fait fort, je ne le nie pas. Mais il me semble qu'on ne peut pas comprendre comment ce régime tient si on ne regarde pas aussi l'adhésion massive dont il bénéficie. Et moi, je voulais le regarder, ce régime, pas seulement dans sa phase critique, c'est-à-dire dans la guerre, mais je voulais aussi comprendre comment il arrive au pouvoir et comment il s'est quand même maintenu 12 ans au pouvoir, dont pratiquement 8 ans de paix. Donc, ces 8 années, qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que les gens étaient contents? Question simple. Est-ce qu'il y avait des oppositions? Un peu, beaucoup, passionnément. Voilà, c'était ça l'objectif. Donc, effectivement, j'ai regardé, c'est des fonds d'archives énormes, gigantesques. Enfin, ça peut paraître fou dit comme ça, mais il y a des millions et des millions de lettres qui disent à Hitler qu'on l'admire, qui disent qu'on l'aime, qui lui souhaitent bon anniversaire, qui lui souhaitent joyeux Noël. C'en est plein, mais des cartons entiers, malgré les destructions de la guerre, malgré les bombardements, on a conservé tout ça. Donc moi, je tombe sur ces matériaux-là et je me dis, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'ils sont moins représentatifs que les textes d'opposants, les statistiques de massacre? Et je ne crois pas. Moi, je crois qu'il participe des deux. C'est-à-dire que pour faire la jouissance, il a fallu peut-être à un certain moment en arriver au massacre et à la violence, et donc à terme au génocide.
L'utilisation de ces sources, l'émission Un jour dans l'histoire tient vraiment à parler des sources. L'historien doit travailler sur les sources. Enfin, il y a un caractère totalement inédit à l'utilisation de ces sources. En tous les cas, des sources que vous présentez et sur lesquelles repose votre livre.
Oui, moi, ça a été un peu une surprise. C'est la façon dont le regard de l'historien joue. C'est une réalité. Vous savez, on en discutait beaucoup méthodologiquement dans les années 70, le regard. Est-ce que c'est le regard de l'historien qui fait l'histoire? Mais c'est vrai que j'ai été très étonné parce que je suis allé dans les archives d'État. Les archives qui sont donc étiquetées en Reich pour les archives de l'État et en NS, c'est-à-dire National-Socialisme, pour le parti nazi. C'est des archives qui sont très fréquentées. Beaucoup d'historiens y viennent. Et dans ces archives, il y a tout un tas de cartons qui relèvent du protocole, qui relèvent de la vie quotidienne des administrations. Et en fait, c'est dans ces cartons-là qu'on trouve une documentation assez surprenante, puisque jusqu'à présent, elle avait été vue, elle est connue, mais elle n'est pas exploitée. De la même manière, les cadeaux de Hitler, il a fallu attendre 2004 pour avoir un livre qui parlait de tous les dons qui avaient été envoyés à Hitler. C'est-à-dire qu'il y a une série qui se trouve au Bundesarchiv à Berlin, une série où sont recensés tous les cadeaux reçus à la chancellerie. Donc vous imaginez, des milliers et des centaines de milliers, des dessins d'enfants. Pensez aux coussins. Vous savez, on offre des coussins souvent aux chefs d'État. Je me suis toujours demandé pourquoi le coussin. Ça doit être l'idée qu'il faut qu'il soit un petit peu dans le confort, ou c'est peut-être l'objet intime pour celui qui offre. On offre des fleurs, on offre des choses à manger, des chocolats. Enfin bref, toute une panoplie d'objets comme ça. Et visiblement, pendant des années, c'était resté secondaire.
Alors, quelle conclusion, Fabrice d'Almeida, tirez-vous de cette exploitation des sources? C'est ce que nous allons voir dans un instant. À tout de suite. Un jour dans l'histoire reçoit Fabrice d'Almeida, auteur du livre « La vie mondaine sous le nazisme » paru aux éditions Perrin. Alors nous avons, Fabrice d'Almeida, évoqué l'historiographie, évoqué votre travail de recherche. Quelle conclusion tirer de ce travail de recherche? En lisant votre livre, on pense à une des scènes du film que vous citiez tout à l'heure, le film de Olivier de Hirschbiegel, « Der Untergang », la chute retraçant donc les derniers moments de la vie d'Hitler dans le bunker. Une des scènes montre une fête qu'organise Eva Braun de manière totalement imprévue, même impromptue, à l'extérieur du bunker. Cette notion de fête, ce banquet, est liée, dites-vous, à l'idée de sacrifice et à l'idée de mort.
Oui, c'est un vieux débat. Alors, c'est un vieux débat à la fois d'historiens, de sociologues et d'anthropologues. Au fond, il y avait au tout début l'idée du bouc émissaire, la théorie du bouc émissaire. Et Hannah Arendt a beaucoup insisté en disant non, on ne peut pas considérer que le génocide s'est commis uniquement autour de cette notion mimétique, hein, liée à la mimésis du bouc émissaire. En revanche, moi, ce qui me frappait, si on veut réfléchir en termes anthropologiques, c'est-à-dire ne pas s'arrêter uniquement à l'histoire, mais essayer de le replacer, le nazisme, disons, dans des pratiques humaines générales. Et ce qui m'a frappé, et notamment en lisant un anthropologue britannique qui s'appelle Maurice Bloch, c'est la façon dont il montre une certaine permanence entre le banquet et les actes. Alors là, c'est pour faire la cuisine, mais les actes de sacrifice et de liquidation d'animaux ou éventuellement, dans certaines sociétés, d'hommes. Et il montre comment, presque au même moment, on effectue le crime et on se réunit pour célébrer ce crime en banquet. Et moi, je n'ai pas pu m'empêcher, avec la concomitance des sources que j'ai, c'est-à-dire qu'au moment même où s'accomplit en Europe, disons, le plus dur de la guerre, c'est-à-dire si on prend 42-43, c'est les moments où on effectue le génocide effectivement. C'est-à-dire qu'il commence avant, il y a dès l'été 41, les Einsatzgruppen qui commencent à liquider, etc. Bon, on a au même moment une très grande violence vis-à-vis de la population polonaise, ukrainienne, etc. Donc, vous vous souvenez, hein, la Biélorussie, des villages entiers brûlés par la Wehrmacht, la Yougoslavie, on va liquider des civils, des juifs par la Wehrmacht. J'insiste sur la Wehrmacht parce que c'est pas la SS uniquement, on est bien dans le côté, c'est de l'Allemagne, c'est bien une question là de guerre nationale. Hein. Bon, et au même moment, les rations alimentaires allemandes, les rations caloriques, n'ont jamais été aussi hautes. Et ça, c'est ce qui m'a frappé, qu'au même moment, on liquide et on pille et on se nourrit avec, dans l'absolu allemand, c'est-à-dire que la ration alimentaire, elle va commencer à reculer seulement en 1944. Donc ça m'a vraiment, je dirais, laissé pantois. Je me suis dit, et là, c'était la moyenne, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, quand je regarde mes propres sources, que je regarde ce que mangent les gens de l'élite, parce qu'évidemment, mes documents, c'est incroyable ce qui est conservé quand on y réfléchit. J'ai, par exemple, les commandes de viande, de pain, de sucre pour faire des gâteaux pour une réunion de Gauleiter en 1942. J'ai les menus qui vont être servis lors des réceptions que donne Hitler quand il reçoit des acteurs, quand il reçoit des hommes d'État, de 1935 à 1945 pratiquement. Je m'aperçois qu'il y a des pénuries sur certains aliments, notamment les volailles. Les volailles, c'est difficile à trouver. Et pourtant, au même moment, quand je regarde ce qu'on mange à la table des dirigeants, eh bien, on mange quoi ? Du canard, du poulet, on mange justement la volaille qui est précieuse, qui est considérée comme rare parce que ce qui est répandu pour se nourrir, c'est le porc. Bon. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher, si vous voulez, de voir en quelque sorte ce modèle anthropologique mis à l'œuvre. Alors, effectivement, en tant que modèle, il sert à poser des questions essentiellement. Et c'est pour ça que je m'en suis servi. Je ne pense pas que c'est, disons, une explication strictement anthropologique qui suffirait de dire, voilà, dès qu'on fait un crime, on a envie de manger derrière. Mmh. Ça n'aurait pas de sens, on est bien d'accord.
Ouais. Alors, venons-en donc au fait, comment définir la vie mondaine en Allemagne dans les années 30 ? Est-ce qu'on peut donner une définition de la mondanité à l'époque ? Ou au fond, est-ce que cette mondanité correspondrait à la mondanité fin 19e ou bien milieu 20e siècle ?
Bon, alors évidemment, il y a une définition historique de la mondanité. Soit on prend celle qui consiste à dire la vie mondaine, c'est la vie des gens du monde. Alors à ce moment-là, il faut reporter la définition sur qui sont les gens du monde. Soit on part du principe qu'il y a un certain nombre de pratiques, de représentations, qui définissent une sorte d'entre-soi qui repose beaucoup sur des manifestations, des événements dans lesquels se retrouve une société, celle qu'on appelle d'ailleurs la société quand on en est membre, et quand on n'en est pas membre, on l'appelle la haute société ou la belle société, en allemand, die feine Gesellschaft, die hohe Gesellschaft. Mais voilà, la société, elle a un certain nombre de rites, de pratiques, etc., qui la définissent. Alors, évidemment, quand on regarde le nazisme, il y a un certain nombre de spécificités fortes. Première spécificité, d'abord, c'est l'éradication d'un certain nombre de groupes de cette haute société. Et au premier rang d'eux, on trouve les juifs. C'est-à-dire que la construction de la haute société nazie, si on veut l'appeler comme ça, ou de la vie mondaine sous le nazisme, se caractérise premièrement par la destruction systématique de la haute société juive.
Alors, avant peut-être de venir sur cette question qui est une question majeure, ce qui m'a étonné dans votre livre, c'est que dès les premières pages, vous montrez que cette construction et cette importance de la mondanité, eh bien, Hitler la voit dès le début des années 20. On a tendance à voir Hitler un peu comme un personnage isolé qui fait son petit putsch au début des années 20, alors que ce n'est pas le cas. Il monte tout un réseau dès le début des années 20.
Oui, alors c'est vrai que je crois, c'est la thèse que j'ai défendue et j'en suis vraiment intimement convaincu, je crois qu'il y a une stratégie de séduction de la haute société et qui commence très très tôt et que Hitler a une très grande conscience qu'il ne pourra pas effectuer, construire son mouvement populaire si en même temps il n'obtient pas des soutiens chez ceux qu'il considère comme les puissants. Et il a la chance, dès 1919, dès 1920, de rencontrer quelques-unes des personnalités qui sont bien en cours dans les salons de Munich. Hein, et c'est notamment Dietrich Eckart, un écrivain assez rigolo d'ailleurs, qui a mangé l'héritage de son père, puis qui a mangé l'argent d'un mariage qu'il avait fait, qui écrit des pièces, et puis qui vient à Munich au moment de la guerre. Eh bien, cet homme-là va lui servir d'introducteur dans la haute société munichoise et va lui permettre d'avoir un premier réseau. Mais il y a d'autres compagnons. Quand on pense à Hermann Göring, grand médaillé de la Première Guerre mondiale, de naissance noble, qui lui-même, à l'insertion, est inséré dans un certain nombre de cercles élitistes, eh bien, il va aussi faire travailler les gens. Et puis, il va rencontrer d'autres personnages, dont un qui s'appelle Ernst Anstengel, qui a une relation avec lui passionnelle, on va dire, amicale et en même temps très fusionnelle. Hein. On a du mal à penser ça, mais c'est une époque où la politique se vit en communauté. C'est-à-dire que quand on est dans le parti nazi, on se voit tous les jours. Tous les jours, on va aller boire un verre ensemble, on va aller au restaurant ensemble, on va faire des promenades, on va faire les entraînements, etc., etc. Donc, il faut vraiment penser à cette dimension de la vie ensemble, de la vie collective. Et donc, on se fréquente dans les salons et Hitler va faire cela.
Est-ce qu'il avait des prédispositions, justement, Hitler, du fait de ses origines familiales, ou est-ce qu'il s'est créé une personnalité et qu'il est devenu, ma foi, présentable dans ces salons ?
Oui, c'est cela. Dès le départ, on a essayé de créer le mythe, au fond, d'un Hitler qui serait un être fruste et prolétaire. Lui-même, d'ailleurs, a assez alimenté cela hein, pour dire qu'il avait un père petit fonctionnaire, alors qu'en fait, il a un père qui est un fonctionnaire de rang moyen, voire supérieur. Donc, c'est une famille dans laquelle il y avait, disons, un mode de vie de classe moyenne, une éducation qui l'amenait à savoir se tenir à table. Il y avait déjà, disons, les formes de la civilité qui étaient respectées dans sa famille. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, il va beaucoup à l'opéra. Et à l'opéra, il va avoir son éducation au comportement de la bonne société. Et il y va très jeune, c'est-à-dire dès 14-15 ans, il est très régulièrement à l'opéra de Linz, puis à l'opéra de Vienne. On peut dire que c'est aussi un autodidacte du comportement aristocratique ou mondain. Et puis, il a une chance inouïe, c'est que la Première Guerre mondiale va passer par là. Et qu'est-ce que c'est que la Première Guerre mondiale ? Sinon, cet immense brassage social qui fait que désormais, une partie des élites va avoir envie de jouer un petit peu les attitudes populaires. Et en même temps, à contrario, une partie des classes populaires qui sont promues avec la guerre vont avoir envie de se rapprocher du comportement des élites. Et Hitler, il est la synthèse de ça. Quand il arrive dans un salon, en 1922, 1923, je pense au salon des Bechstein, par exemple, des facteurs de piano, richissime famille, qui est installée à Berlin. Quand ils viennent à Munich, ils s'installent dans le plus grand palace de l'époque, qui est le Vier Jahreszeiten, c'est-à-dire l'hôtel des quatre saisons. Ils ont leur appartement 6 mois là-bas par an. Et ces gens-là, quand Hitler vient leur rendre visite, ils adorent ça parce que c'est l'aventure qui rentre dans le salon. Il rentre avec sa culotte bavaroise, sa chemise jaune, et vous imaginez, il suspend à la patère son revolver. C'est vraiment l'aventure. Et ça, ça fascine. Ça fascine.
Dans une période en plus de crise politique, c'est très important. On a tendance à oublier que l'Allemagne du début des années 20 est dans une profonde crise politique.
Profonde crise politique et moment avec une volonté de radicalisation des élites. C'est-à-dire qu'elles ont eu très peur de la révolution des conseils de Bavière, elles ont eu très peur de la tentative de révolution berlinoise, hein, les spartakistes, hein, Rosenburg, Liebknecht, qui ont essayé de faire cette révolution. Donc il y a une peur d'une certaine partie des élites et il y a le sentiment qu'il faut agir avec de la poigne et qu'il faut utiliser pour ça ceux qui savent faire, c'est-à-dire les anciens militaires, les anciens des corps francs. Et il y en a justement autour de Hitler et ils arrivent à faire cette synthèse-là. Et c'est tout à fait fascinant, je trouve, de voir comment, bon, j'ai essayé de justement analyser, est-ce qu'Hitler est bien élevé ? Est-ce qu'on peut recevoir Hitler dans un salon ? Bon. Et effectivement, on peut. On peut parce que justement, il y a l'aventure et puis il y a aussi le fait qu'il faut que l'actualité soit dans les salons. N'oubliez pas qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, on commence à rentrer dans une société qui est un peu une société médiatique. Or, que veulent les gens des salons ? Être toujours à la pointe de l'information, être toujours à la pointe de l'actualité. Or, Hitler la crée. Il la crée. Il fait de l'agitation, il fait des manifestations, il fait des pressions sur le gouvernement, il fait même un coup d'État. Donc, il est un personnage qui anime la vie. Et donc, en un sens, de la même manière qu'un athlète ou qu'un poète, qui dès les années 20 commence à entrer dans les salons, dès les années 20, eh bien, ça va se poursuivre. Eh bien, il y aura cette idée que on peut recevoir ceux qui font l'actualité. En un sens, c'est pas si loin de ce qu'on a pu voir en France dans les années 80 ou 90.
Je reçois Fabrice d'Almeida, auteur du livre « La vie mondaine sous le nazisme » paru aux éditions Perrin. Nous nous retrouvons dans un instant, à tout de suite.
Bonjour, c'est Hélène Renard. Je vous invite tous les jours sur Canal Académie pour l'émission « Au fil des pages ». L'actualité littéraire, les livres des académiciens, ceux dont ils recommandent la lecture, ou encore les ouvrages déposés sur le bureau de l'Académie des sciences morales et politiques lors des séances. Chaque jour, je vous invite à la lecture, à la découverte de l'histoire, de la société, des femmes et des hommes qui font l'actualité littéraire. C'est dans Au fil des pages. À tout à l'heure.
Un jour dans l'histoire reçoit Fabrice d'Almeida, auteur du livre « La vie mondaine sous le nazisme » paru aux éditions Perrin. Alors nous avons parlé des années 20, passons si vous le voulez bien aux années 30. Peut-on parler d'une continuité entre la mondanité de la République de Weimar et la mondanité en place sous le régime nazi, donc dès janvier 1933 ?
Alors pour moi, il y a une rupture radicale qui est justement l'éradication de la haute société juive. En même temps, quand on regarde, disons, des salons de la noblesse conservatrice ou réactionnaire, qu'on regarde les salons d'hommes d'affaires comme Ribbentrop, hein, Joachim von Ribbentrop, qui va être en 38 ministre des Affaires étrangères. Quand on regarde le salon de Victoria von Dirksen, qui est une femme de haute naissance aristocratique, hein, elle appartient à une grande famille, qui est la famille des Laffert, et elle va épouser quelqu'un qui est d'une famille anoblie tardive, c'est-à-dire des années 1860. Quand on regarde ces gens-là, au fond, il y a une continuité. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas cesser du tout leurs activités, au contraire, ils vont les maintenir, voire pouvoir les amplifier. Bon, je vais prendre l'exemple le plus simple, l'équivalent du Jockey Club, hein, qui est une société de course qui a été créée dans les années 1860, avant l'unité allemande, hein, ils en sont très fiers. En 1867, ils ont créé une société de course qui était ouverte à tous les Allemands, donc avant l'unité. Et donc, cette société-là va continuer à travailler, elle va même avoir le monopole des paris sous le nazisme. Et si vous regardez la liste des dirigeants, eh bien, ils sont tous membres du parti nazi. Et ils sont tous, en même temps, les mêmes pratiquement que ceux qu'il y avait dans les années 20. Les mêmes familles de banquiers, les mêmes familles d'aristocrates. On va même avoir Franz von Papen, qui est le chancelier du Zentrum catholique, qui a favorisé l'arrivée d'Hitler au pouvoir, qui sera le président de cette société. Donc, il y a une continuité des pratiques, une continuité des activités, une continuité de la manière d'être, mais avec un changement radical, idéologique, une adhésion idéologique profonde aux valeurs de ce qu'on appelle à l'époque la Nouvelle Allemagne.
Vous décrivez en fait l'avancée d'une nouvelle sociabilité au fur et à mesure. Il y a plusieurs époques, j'allais dire, dans le nazisme, une progression dans cette vie mondaine où peu à peu, eh bien, c'est le régime totalitaire qui compte et lui seul.
Oui, c'est-à-dire qu'au départ, on a l'impression qu'on rentre dans un régime, disons, autoritaire et que tout cela est très banal. D'ailleurs, ne pas aimer les Juifs, à cette époque, dans les milieux conservateurs, c'est banal. Bien sûr, on peut avoir des amis. Bien sûr, il y en a dans les salons. Bien sûr, Hitler même fera, il y a un auteur qui a pris cela pour titre d'un de ses livres, il fera le baise-main à quelques femmes juives de la haute société. Donc au début, sentiment de banalité, mais avec cette idée qu'il faut que ça cesse, qu'il faut qu'on rentre dans la Nouvelle-Allemagne. Et puis, à partir de 1934, je dirais, ça se radicalise encore. C'est-à-dire, il y a eu la répression de Röhm, qui a fait peur, parce qu'au moment de la répression de Röhm, on a aussi réprimé un certain nombre de libéraux conservateurs, des partisans de Franz von Papen, notamment. Et puis, Hitler cumule tous les pouvoirs. Et puis, en 1935, le régime est bien assis. Et puis, en 1936, donc il y a les lois raciales en 1935. Et puis, en 1936, il y a les Jeux Olympiques. C'est la reconnaissance absolue du nazisme. Et puis, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un certain nombre d'événements qui font que le régime paraît de mieux en mieux installé et qu'on commence à compter avec l'idée qu'il n'est pas là pour un peu de temps, qu'il est là pour longtemps, qu'il va vraiment durer 1000 ans. Et quand on arrive en 1937, 1938, qu'il y a les victoires militaires qui s'ajoutent à ça, les conquêtes territoriales, qu'en 1939, 1940, la France est écrasée, humilié, vaincu, que c'est la revanche complète de la Première Guerre mondiale, comment voulez-vous que ces gens-là n'aient pas pensé que le régime nazi était l'horizon durable? L'horizon durable est à la limite incontestable. En 1940, en juin 40, qui va se plaindre de Hitler? Non mais vraiment, qui va se plaindre de Hitler? Il reçoit des télégrammes de félicitations de partout, y compris de pays envahis. Donc, il y a vraiment là un moment où l'élite se dit, bon, ben, il n'y a pas d'autre horizon. Et on peut voir aussi que cette élite aristocratique, professionnelle, banquière, militaire, juriste, va profiter des opportunités que lui donne le nazisme. Parce qu'à mesure qu'il grandit, à mesure qu'il conquiert, à mesure qu'il spolie un certain nombre de catégories d'individus et un certain nombre d'États, eh bien, il offre des opportunités de carrière et il distribue de l'argent. En gros, si à partir de 1933, il ne peut plus y avoir très facilement de médecins juifs ni d'avocats juifs, qu'à partir de 1935, ces professions leur sont fermées, qu'à partir de 1939, il ne peut plus y avoir d'entrepreneurs juifs, de commerçants juifs. Il va bien falloir distribuer leur commerce et leurs magasins. Il va bien falloir qu'ils revendent à perte. Qui va en bénéficier? Une partie de cette élite montante. Quand on remilitarise la Rhénanie, quand on recrée l'armée allemande, quand on crée la Luftwaffe, on multiplie les emplois d'officiers pour qui? Pour les familles aristocratiques. Donc, si vous voulez, toute cette logique interne du régime fait qu'elle fait fonctionner un assez grand consensus. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, ça marche.
Alors, vous utilisez le terme de consensus, mais il y a un autre terme que vous utilisez et qui revient régulièrement dans votre ouvrage, c'est le terme de conformisme.
Oui, moi, j'essaie de ne pas l'employer comme on l'utilise, d'une façon un peu commune. Pour moi, c'est vraiment un processus sociologique, de l'ordre de la mimétique. C'est-à-dire que dans le conformisme, il y a quelque chose qui relèverait un petit peu des lois de l'imitation. Alors, je ne vais pas développer cet aspect, mais il me semble que ça joue énormément. Dans une société, quand il y a un certain nombre de règles, quand on voit qu'il y a des comportements qui s'imposent, cette idée de la Nouvelle-Allemagne, vous voyez ce que je veux dire? On n'attend pas que les clubs de sport soient interdits aux Juifs. on va anticiper, le Golf Club de Berlin. Dès juin 1933, il exclut ses membres juifs. Le Tennis Club de Berlin, pareil, été 1933, il exclut ses membres juifs. La Fédération de tennis allemande, dès l'été 1933, elle renvoie Daniel Prenn, hein, qui est le joueur qui a permis à l'Allemagne de remporter la Coupe Davis. C'est le vainqueur de Bunny Austin. Donc un personnage, vous voyez ce que je veux dire, une star du sport. Résultat, il va s'exiler, il va aller en Angleterre, il va jouer sous les couleurs anglaises. Bref, il y a là un zèle, une envie de faire bien et de faire comme tout le monde. C'est un peu ça que je voulais pointer à travers ce terme, effectivement, de conformisme. C'est-à-dire pas seulement l'idée simple qu'un tel est conformiste, voilà. Mais vraiment là, une espèce de mécanique sociale qui s'impose et qui oblige un petit peu tout le monde. Alors, Yann Kershaw, l'historien anglais, a un terme pour dire cela. Il dit « travailler dans la direction du Führer ». Il reprend un discours hein, qui parle de ça, « travailler dans la direction du Führer », « travailler orienté vers lui ». Je crois qu'il y a la dimension hiérarchique, mais il y a aussi la dimension véritablement horizontale. Hein. Quand votre voisin a un certain type de comportement, quand vos amis, etc., ça fait une mécanique dans laquelle vous êtes un peu contraint de vous couler. Donc je le prends pas comme seulement un phénomène volontaire, mais comme aussi un élément de contrainte.
Alors vous savez apporter une nuance, parce que un de vos sous-chapitres, notamment, se pose la question de savoir si les spoliations, les expropriations relèvent finalement d'un intérêt personnel ou bien au contraire de l'idéologie.
Mais il y a les deux. C'est toute la complexité de la chose. C'est vrai que quand on regarde la manière dont s'est déroulée l'éviction des Juifs, d'abord leur marginalisation, puis la spoliation. Mais il y a quand même une dimension idéologique et économique tout à fait fondamentale. Il y a un texte qui est hallucinant, qui est vraiment hallucinant. C'est le protocole d'une réunion qui a lieu juste après la nuit de cristal, en novembre 1938. Donc, vous savez, le 9 et 10 novembre, il y a, à la suite d'un attentat contre le conseiller von Rath, à l'ambassade d'Allemagne à Paris. Donc, il est blessé, puis il meurt. Et donc, il va y avoir un gigantesque pogrom contre les Juifs en Allemagne, avec donc des bris de verre. C'est pour ça qu'on l'a appelé la nuit de cristal. Et donc, il y a une réunion hallucinante, présidée par Göring, dans laquelle on va retrouver Goebbels, on va retrouver Heydrich, qui représente Himmler, donc qui représente la sécurité du Reich. On va retrouver le Reich protecteur d'Autriche, puisqu'il y a déjà eu l'Anschluss. Donc, on va, voilà, tous les grands services sont représentés. Et ils se disent, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça a mis en péril l'économie allemande qui n'allait pas si bien que ça. Donc, la première idée, c'est préserver les assurances, essayer de leur faire payer le moins possible. Donc, on va exclure les Juifs du remboursement des bris de verre. Par contre, il est bien précisé par Göring qu'on doit rembourser les Allemands, donc les assureurs râlent. Et Göring leur dit, mais enfin, écoutez, je vous épargne 1 million, ça va. Enfin, 1 milliard, vous plaignez pas. Bon, ensuite, on réfléchit, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour, disons, les inciter au départ? Puisque, dans la théorie que présentent ces hommes-là, c'est la présence des Juifs qui crée du désordre. Donc, c'est aux Juifs de payer les désordres qu'ils occasionnent. Donc, résultat, ils vont décider que les Juifs doivent payer 1 milliard d'indemnités pour avoir été fauteurs de troubles. Donc, deuxième mesure. Et puis, dans la ligne, on discute, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y en a un, Walter Funk, qui s'occupe de l'économie. Il dit, pourquoi on les fait pas crever de faim? Si on les affamait, c'est une solution simple. Alors, Göring lui dit, non, c'est pas possible. Écoute, franchement. Donc, vous voyez ce que je veux dire? L'imbrication de l'idéologique, de l'économique. Et puis, ils disent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les empêcher d'avoir des entreprises. On va tout spolier. On va tout prendre. Et comme ça, en fait, ils pourront plus vivre en Allemagne. Ils seront bien obligés de partir. Mais nous, on aura les capitaux, on aura l'argent, on aura le savoir-faire. Donc, vous voyez, l'intérêt à la fois individuel, parce que Göring dit, attention, hein, au moment où ça va être distribué aux camarades du parti, je veux que ce soit fait, alors il ne dit pas démocratiquement, mais il dit, je veux que ce soit fait sans avantager les petits copains. En réalité, c'est assez comique, parce que comme clientéliste, Göring se pose là.
Je reçois Fabrice d'Almeida, nous vous retrouvons dans un instant pour la dernière partie de cette émission. Thank you.
Nous entamons la dernière partie de notre émission, consacrée donc à la vie mondaine sous le nazisme. C'est le titre de votre ouvrage, Fabrice d'Almeida. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes agrégé, docteur en histoire et directeur de l'Institut du temps présent. Il y a un aspect, alors nous évoquions les spoliations et finalement les massacres de toute une population, et il y a un aspect qui est plus, j'allais dire, plus soft, si vous me permettez cette expression, c'est la question diplomatique. Autant Hitler, dans sa politique intérieure, il fait ce qu'il souhaite, autant dans les arcanes de la diplomatie, la chose est moins facile. Comment se débrouille-t-il pour apporter, pour, d'après lui, éclairer de son idéologie les diplomaties des différents pays représentés à Berlin ?
Oui, alors ça, c'était l'autre versant important de la vie mondaine. C'est-à-dire qu'il y avait la vie mondaine officielle autour du Reich, autour du chancelier, et puis il y avait effectivement toute cette saison diplomatique, hein, parce que c'est véritablement, ça fonctionne encore comme une saison qui généralement s'ouvre au mois d'octobre et qui s'achève, en tout cas pour sa partie hivernale, qui s'achève en février, puis normalement on repart sur ses terres et on revient donc en mai et on va jusqu'à l'été avant de repartir. Donc il y a cette dimension-là. Comment ça se passe avec les diplomates ? Est-ce qu'un État à cette époque peut se permettre n'importe quoi ? Évidemment non, sauf s'il est habile et ils sont très habiles. Première chose que Hitler va faire, c'est d'essayer de rassurer toutes les chancelleries.
Vous décrivez cette scène, c'est extraordinaire, c'est d'une, j'allais dire, c'est diplomatique, c'est de la diplomatie pure avec ses fiches, tout est préparé, tout
ah oui,
est calculé.
C'est la technique d'État, c'est extraordinaire de voir jusqu'où la technique d'État va descendre. C'est pas le seul, hein, parce que il y a d'autres chancelleries qui font des équivalents. Mais là, il y a vraiment la volonté de mêler la vie intime du diplomate, de lui parler de sa famille, de lui parler de ses goûts. Hein, donc c'est les fiches que lui prépare le monde diplomatique, qui sont revues d'ailleurs par les services personnels de Hitler, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui connaissent.
Nous n'en avons pas parlé, mais il y a des bureaux, il y a une bureaucratie destinée à gérer ce genre de questions.
Oui, vraiment, c'est l'adjutantur personnel de Hitler. Bon, tous les grands personnages ont leurs adjoints. Il y a un moment où ça devient des administrations, c'est-à-dire il y a plusieurs dizaines de personnes dedans qui répondent aux courriers mondains, qui font les invitations, les plans de table sont photocopiés et envoyés à tous les services. Avec, c'est très drôle, vous savez, on met Sehr vertraulich, c'est-à-dire très confidentiel, mais en réalité c'est distribué à 40 ou 50 services, donc il y a des documents comme ça qui circulent. Donc eux, ils vérifient que l'information sera juste pour le diplomate. Je pense là à Dodd, hein, l'ambassadeur des États-Unis. Son fils fait une thèse sous la direction de Friedrich Meinecke à l'université de Berlin. L'été dernier, il est parti se promener avec sa mère, ils ont visité les États du Sud. L'ambassadeur lui-même s'est rendu à tel opéra, il a entendu telle œuvre, etc. Et donc Hitler reçoit ça. Et en bon homme politique, en bon Kennedy, j'allais dire pour son époque, eh bien, il va s'en servir pour faire des conversations et comme ça jouer, créer un peu de l'intimité. Il y en a un qui l'a raconté, c'est François Poncet, l'ambassadeur de France en Allemagne. Au moment où il doit partir, il se retrouve invité par Hitler au Nid d'Aigle. Alors, il n'y est jamais allé, donc il prend l'ascenseur, il monte, etc. Et il est reçu dans les salles. Et visiblement, Hitler veut faire bonne impression. Il lui offre du café, il lui parle gentiment, prend des nouvelles, etc., etc. Et il va repartir, mais évidemment, l'opération de séduction aura un peu raté, parce qu'il se trouve que François Poncet va garder chevillé au corps l'idée que c'est lui le pire ennemi pour la France. Bon, mais il y a cette tactique, il y a cette volonté d'insérer les diplomates dans le concert berlinois, c'est-à-dire les faire participer aux grandes fêtes, aux grands bals, leur offrir des choses qui puissent les convaincre. Et cette méthode-là, ils vont l'utiliser vraiment à des occasions énormes. C'est-à-dire
on les emmène à Nuremberg, on les emmène en croisière.
Train spécial, bateaux spéciaux, offres de bijoux, propositions de décoration. Donc, ils reçoivent des insignes de la SS. Certains seront initiés à la SS. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une volonté de, pas de les convaincre, mais de les séduire. Alors, il y a un pays avec lequel c'est extraordinaire, les échanges, c'est l'Italie. Parce qu'au départ, l'Italie est hostile à l'Allemagne. Il ne faut pas l'oublier. En 1934, quand il y a la tentative de coup d'État des nazis en Autriche, l'Italie mobilise. En 1935, c'est encore tangent. Et puis, à partir de 1936, le rapprochement se fait. Et là, on voit la multiplication des échanges et dans les deux sens. C'est-à-dire que les Italiens veulent séduire les Allemands et les Allemands veulent séduire les Italiens. Donc, ils échangent des décorations, ils échangent des cadeaux, ils échangent des tableaux, notamment, puisque ça va jouer un très, très grand rôle sous le Troisième Reich, la place de l'art. C'est-à-dire, c'est un peu la monnaie d'échange, l'art. On s'en sert pour récompenser les proches, récompenser les alliés. Dans le domaine de la littérature, pensez à tous les écrivains étrangers, tous les journalistes qui sont invités au congrès du Nuremberg. Bon, dans le cas français, c'est bien connu, celui qui va organiser cette politique de séduction vis-à-vis du monde intellectuel et du gotha intellectuel français, c'est Otto Abetz, qui sera par la suite ambassadeur en France sous l'occupation.
Se crée véritablement un culte autour de la personnalité d'Hitler, et ce culte va même jusqu'à l'étranger.
Oui, c'est extraordinaire de voir comment la diplomatie peut servir le culte de la personnalité, c'est-à-dire que les consulats allemands à l'étranger organisent des fêtes pour l'anniversaire de Hitler. On compose des poèmes en son honneur. C'est pas que des toasts, on compose des poèmes, on fait des éditions spéciales de journaux. Bref, là, on voit l'exportation de la fascination pour l'Allemagne nazie, et je crois que ça peut, et il faudra un jour y revenir, mais je crois que ça peut expliquer comment dans certains pays comme le Brésil, l'Afrique du Sud, c'est pas qu'une question, je dirais, de migration, c'est des pays où il y a des fortes communautés allemandes, mais cette fascination-là va durer très longtemps et fait qu'il y a encore une certaine curiosité un peu malsaine dans certains pays pour le nazisme, vu comme éminemment positif.
Alors, votre dernier chapitre, que vous avez appelé avec une certaine ironie la Seconde Guerre mondaine, décrit un monde très sûr de lui. N'est-ce pas là, précisément, ce monde sûr de lui, une des raisons de son échec ?
C'est compliqué parce que là, on touche aussi à ce qui sort de la vie mondaine, c'est-à-dire à la géopolitique et à l'histoire stratégique, que Bainville, par exemple, connaissait bien. Et je crois que vous connaissez bien vous-même Bainville. Donc, on touche à des questions qui sont, au fond, est-ce que l'Allemagne pouvait, avec comme allié l'Italie et le Japon, réussir à avoir cette vision de domination du monde complète qui était celle que Hitler caressait à certaines heures ? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que effectivement, dans cette panoplie-là, on n'avait pas tout à fait prévu ce qu'est le stalinisme et on n'avait pas non plus tout à fait prévu ce qu'étaient les États-Unis d'Amérique. Au fond, dès le début, quand Anstengel essaie d'initier Hitler à ses cercles de sociabilité, il essaie de le convaincre qu'il doit aller aux États-Unis, qu'il doit rencontrer les dirigeants américains, qu'il doit rencontrer la haute société américaine. Mais Hitler lui dit que tout ça, c'est trop loin, que ça ne sert à rien et que le vrai problème, c'est quoi ? C'est la France.
Alors persiste une énigme, vous le dites d'ailleurs au début de votre ouvrage, là réside l'énigme la plus grande du national-socialisme, la juxtaposition d'une société qui se croit héritière des plus hautes valeurs de la culture avec le déchaînement d'une barbarie génocidaire. Vous avez réussi à saisir malgré tout un début de réponse à cette énigme ?
Moi j'ai eu le sentiment en tout cas, ce qui me frappait c'était chez des gens, on sait que la culture ne protège de rien, mais chez des gens cultivés, bien éduqués, des gens qui sont nos semblables, disons dans la manière d'être et dans les valeurs de la vie quotidienne, eh bien j'ai eu le sentiment qu'il y avait différents aspects, que c'était pas l'aspect idéologique ne suffit pas. En fait, ce qui m'a apparu, c'est qu'il y avait différentes raisons qui expliquaient que des individus s'étaient impliqués. Donc le conformisme en était une, comme mécanique, sociale, mais il y avait aussi une logique d'émotion collective. L'idée qu'on partage une aventure collective qui a été très importante. Il y avait des logiques qui tenaient à l'intérêt direct, c'est-à-dire des gens qui savaient qu'ils bénéficieraient de l'élimination physique d'un certain nombre de personnes, qui savaient qu'ils pourraient faire des affaires beaucoup plus facilement en suivant la voie génocidaire. Et puis, il y avait aussi d'autres aspects qui sont difficiles à saisir, mais ça, c'est la chance de l'histoire parmi les sciences humaines et sociales, c'est qu'elle peut parler de ça, des aspects qui relèvent, disons, des affinités électives, de l'amitié, des relations entre personnes, qui ne dépendent pas uniquement d'une relation sociale ou d'un mécanisme de travail. Et on voit bien comment ces dirigeants étaient séduisants humainement. Alors c'est terrible dit comme ça, mais je crois que c'est une réalité. Il y a un certain nombre de gens qui ont suivi Hitler parce qu'ils l'appréciaient et pas seulement comme chef, des gens qui l'ont connu pauvre.
Et justement, c'est ce qui a été difficile pour vous, Fabrice d'Almeida, de distinguer finalement ce qui relève de la normalité, de la normale et du terrible.
C'est plus facile pour nous, on va dire, parce que, disons, la distance nous permet d'être moins victimes, disons, de la sympathie. On sait ce qu'a été l'histoire de la violence. Ça, c'est très important. Donc, on est un petit peu garanti d'être véritablement séduit par les personnages. Par contre, on peut essayer d'entrer en empathie pour essayer de saisir quelle mécanique psychique les fait agir. Et ça, c'est très important. Mais ma grande chance, je crois, c'est peut-être ce qui me permettait d'avoir une distance, je ne suis pas allemand, je suis français. Et une partie des questions que j'ai posées à l'Allemagne sont des questions françaises. Car enfin, le terme de vie mondaine est un décalque en allemand du terme de vie mondaine français. Mondaines Leben. Et mondaine, en allemand, c'est péjoratif. En français, la vie mondaine, c'est relativement neutre, technique presque, on pourrait dire. Nous avons tous en tête ce qu'est la vie mondaine depuis la Restauration, en passant par Proust. Nous avons cette histoire-là qui est très profondément imprimée dans notre société, ce qui n'est pas le cas pour l'Allemagne. Donc, ces questions-là, au fond, me permettaient de sortir d'un certain nombre de préjugés allemands grâce à mes préjugés de français. Et à contrario, pour lutter contre mes préjugés de français, j'avais la chance de travailler dans un centre franco-allemand, qui est le centre Marc Bloch à Berlin, et d'avoir été auparavant accueilli par une université allemande avec une bourse allemande, hein, une bourse de la Fondation Alexander von Humboldt, qui, si je ne m'abuse, a été très liée à l'Institut de France. Et puis, en même temps, j'étais accueilli à l'Université libre de Berlin. Donc, j'avais des collègues allemands avec lesquels je discutais, qui parfois d'ailleurs étaient en désaccord avec mon point de vue, donc ça m'obligeait à argumenter. Voilà, donc je crois que c'est un peu la méthode, je crois, et la confrontation intellectuelle qui permet d'éviter de tomber dans tous les pièges de l'adhésion unanime au sujet sur lequel on travaille.
Eh bien, c'est sur ce lien franco-allemand et sur cette confrontation intellectuelle, Fabrice d'Almeida, que nous allons nous quitter. Je vous remercie.
Merci à vous.
Beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur du livre « La vie mondaine sous le nazisme », donc Fabrice d'Almeida, paru aux éditions Perrin. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.